Salam alaykoum tout le monde, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série spéciale Ramadan, L'arme du croyant. J'espère que ce premier épisode, la semaine dernière, vous a plu. Encore une fois, l'objectif de cette série, c'est de mieux comprendre comment Dieu nous encourage à l'invoquer à travers des exemples tirés principalement du Coran, mais aussi dans la Sunna. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux invocations en particulier, tirées de la fin de Sourate Al-Furqan. Et je vais donner la parole à Fath Allah, du coup, pour commencer. Commencer ce podcast.
الله فيك يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Juste pour resituer ces deux versets dans la fin de Sourate Al-Furqan. Sourate Al-Furqan est une sourate qui arrive un peu avant la fin de la première moitié de la période mécoise, période où il y a beaucoup de polémiques et une période au cours de laquelle les Quraïchites qui ne veulent pas adhérer au message du prophète alayhi cherchent à trouver des failles, ils cherchent à toujours trouver un argument qui permettrait de décrédibiliser le prophète alayhi le Coran, le message. Et cette sourate est une forme d'éducation à comment gérer ce type de polémique, quelqu'un qui attaque constamment, par exemple, sur les sujets liés à l'islamophobie aujourd'hui, ou qui cherche à décrédibiliser ou dévaloriser, ou enfin bref, en tout cas ce type de situation, et on se rend compte que de manière générale, c'est d'ailleurs c'est quelque chose d'assez récurrent dans la tradition, dans le Coran, c'est que les attaques sont prises en considération, c'est-à-dire que ça reste un événement de vie, un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute situation, mais on ne s'enfonce pas dedans. Quand une question est posée et qu'elle est pertinente et qu'elle est en cohérence avec ce qui nous anime, ce qui nous anime profondément et ce vers quoi on est censé pousser les gens, ben, on la traite. Mais quand ce n'est pas le cas, ben, on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala se saisit de la question pour nous amener vers autre chose. Et c'est un peu le cas dans Sourate Al-Furqan, où Allah subhanahu wa ta'ala met en exergue les attaques des Quraïchites et de l'époque, et puis il éduque plutôt vers un rapport à l'autre monde, vers une conscience de l'autre monde et l'importance de l'autre monde. Et quelle place devrait avoir dans notre vie l'autre monde et le jour du jugement notamment. Mais ce lien au monde invisible, le monde des anges, le monde du paradis, le monde de l'enfer, qui doit animer nos quotidiens, on devrait s'en rappeler au quotidien, il est aussi lié à un mode de vie très concret au quotidien pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a une sorte d'école éducative, en fait, avec des consignes de vie. Car Allah subhanahu wa ta'ala va nous partager est toujours lié à une question polémique, puisqu'à la fin, ils vont venir polémiquer avec le prophète, les Quraïchites, en lui disant toi aussi, tu as plusieurs dieux, tu as Allah, tu as Ar-Rahman, tu as Ar-Rahim, et c'est qui ce Rahman à qui tu demandes de nous prosterner? Et Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de répondre à qui est Ar-Rahman, il va décrire qui sont Ibad Ar-Rahman. Et quand il décrit Ibad Ar-Rahman, implicitement, il amène en réalité finalement une explication de qui est Ar-Rahman, puisqu'on a au début la description de gens assez extraordinaires, qui ont de très belles qualités humaines, qui ont de très belles qualités spirituelles, et qui voilà, sont des exemples. Mais on se rend compte qu'après, dans la description, on a affaire à des gens qui bon, respectent les grands interdits. Donc on est plus loin des grandes qualités, mais au moins ils ont le mérite de respecter les grands interdits. Et donc là, on a déjà une petite compréhension de qui est Ar-Rahman, puisqu'il donne ce statut de Ibad Ar-Rahman, les serviteurs d'Ar-Rahman, à des gens de grande qualité, mais aussi à d'autres gens qui déjà se limitent à respecter les grands interdits. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala donne aussi cette qualité de Ibad Ar-Rahman même à des gens qui ne vont pas respecter les grands interdits, qui vont commettre des grands péchés. Et ça, c'est là où on comprend véritablement qui est Ar-Rahman. Pourquoi? Parce que finalement, il leur laisse la porte du repentir. Puisque pour leur accorder cette qualité de Ibad al-Rahman, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup dans le jugement, hein, et on va condamner X ou Y parce qu'il a fait quoi que ce soit, Allah, il lui donne cette possibilité à la condition de se repentir, hein, avec foi et en agissant, en traduisant son repentir par une action. Sauf que l'action, bon, on sait évaluer. Le repentir, bon, à la limite, on peut évaluer qu'on est sur au moins un chemin de retour. Mais même notre action, est-ce qu'elle est véritablement valable? Et puis surtout, la foi, est-ce qu'elle est présente dans notre repentir? C'est très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste en disant, Waman taba wa amila salihan. Et donc, il raccourcit en réalité le processus du repentir et il le simplifie pour montrer que juste faites l'effort de revenir et c'est suffisant. Et donc là, on comprend finalement qui est Ar-Rahman. Et dans ce, et à la suite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala reprend des qualités qui font écho aux premières qualités assez extraordinaires qu'on a vues. Puisque l'objectif, ce n'est pas de se limiter à se dire, bon, moi, je fais des grands péchés, ce n'est pas grave, tant que je me repens. Là, ce ne serait pas cohérent, on ne serait pas dans un repentir sincère. Tout le monde est faible et tout le monde peut fauter, mais il faut que le repentir il soit sincère et qu'il y ait une vraie volonté d'essayer de revenir. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène aux grandes qualités premières et on va avoir des versets qui vont faire écho aux premières grandes qualités qu'on avait dans la description de Ibad al-Rahman. Et dans ces deux séries, donc qui se font écho l'une à l'autre, on a au milieu la description, on a au milieu deux invocations. Puisque dans la première qualité, on a plutôt des qualités. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce sont des gens qui marchent humblement sur terre, hein, qui ont un objectif de vie. Qui sont pas justement, ils ne se laissent pas emporter dans n'importe quelle polémique, ils ne cherchent pas à avoir raison pour avoir raison. Ce qui les intéresse, c'est la vérité, pas le fait d'avoir le dessus sur une autre personne. Hein, quitte à ce que. Voilà. Et quand ils sont interpellés par des gens qui cherchent la polémique, des gens qui sont dans l'ignorance, etc., ils disent salama. Et dire salama, ce n'est pas juste dire paix. D'ailleurs, ce n'est pas de le dire en cherchant plus la polémique qu'autre chose, puisque salama veut dire aussi en état de paix, mais créer un état de paix. On sait qu'en islam, par exemple, la guerre peut être autorisée dans certaines circonstances, mais dans le musabbihat, dans les sourates où il y a tesbih, certains éléments de commentaires du Coran, sans rentrer dans les détails, nous amènent à comprendre que le vrai tesbih, c'est dans la situation de paix. C'est-à-dire que même la guerre, elle doit conduire à une situation de paix. On ne doit pas chercher le conflit pour chercher le conflit. Si conflit il y a, qui est une nécessité par rapport à une injustice, et ça doit être une étape passagère qui doit ramener une situation de paix, parce que c'est dans la paix que les gens peuvent choisir en conscience. C'est pas dans le conflit ou c'est pas dans la tension. Ce passage fait écho au fait que lorsqu'on nous parle de gens qui ne sont pas dans le faux témoignage, hein, donc on a ces qualités humaines dans les relations avec les uns avec les autres. Je ne m'attarde pas sur ces passages-là. Ensuite, on a les qualités spirituelles, hein, des gens qui ont une certaine intimité avec Allah pendant la nuit. Et l'écho fait référence aussi à la journée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ils prient la nuit et la journée, ils sont dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils sont attentifs aussi dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour pouvoir être attentif aussi dans l'Allah subhanahu wa ta'ala la journée, ben, il faut être aussi avoir ces moments d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans nos événements de vie, dans tout ce qui se passe. Mais si nous, on n'a pas ce rendez-vous avec lui pendant la nuit, ben, forcément, on passe à côté, on passe au travers. Donc le parallèle se fait. Et puis le troisième élément qui vient, ce sont deux invocations. La première invocation est liée à l'autre monde, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce sont des gens qui disent Donc ce sont des gens qui disent Rabbana, ô notre Seigneur. Donc ils ont conscience qu'ils dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Rabb, c'est vraiment cette dimension-là on avait évoqué la dernière fois, la différence entre Allahumma, hein, qui est une invocation d'exaltation de la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Rabb, c'est une invocation où on reconnaît notre dépendance, hein, et qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce besoin n'est pas forcément prioritairement tourné vers les choses de ce monde, n'est pas prioritairement tourné vers une solution à mon problème matériel, ou une solution à mon conflit avec telle personne, ou une solution à mon problème psychologique, ou là une solution à mon problème de travail, ou de ceci, ou de scolarité, ou de diplôme, ou de je ne sais quoi. La première préoccupation, ils disent, Rabbana sarif anna adhaba jahannam. Ou Allah subhanahu wa ta'ala disperse, écarte de nous le châtiment de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils le voient tellement de manière préoccupante que leur invocation, c'est sarif anna, c'est faut que ça soit dispersé, faut que d'une certaine manière, ça éclate de leur chemin pour qu'ils puissent se focaliser plus sur le paradis. Parce qu'ils ont, de manière intrinsèque, une vraie conscience du risque du châtiment. Et ça, dans le cheminement, on parle beaucoup de l'amour, de l'espoir, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On dit souvent que peut-être les premières générations qui sont arrivées en France ou dans ces pays-là avaient parfois un rapport un peu dur dans la manière d'éduquer l'islam, mais on l'a beaucoup mis en avant pour compenser et rééquilibrer l'amour et l'espoir, etc. Sauf qu'on a aussi peut-être à un moment donné déséquilibré, parce que comme disait l'imam al-Ghazali, l'espoir et la crainte sont comme les deux ailes d'un oiseau. Sans l'un, l'oiseau il vole pas. Sans l'un ou l'autre, l'oiseau ne vole pas. Et on a besoin de cette crainte-là aussi. Et la conscience qu'on risque le châtiment de l'enfer en n'étant pas à la hauteur de nos responsabilités est aussi importante que de faire par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par désir du paradis, que par l'amour de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par que la recherche du dévoilement. C'est une chose importante. Mais des fois, malheureusement, on a aussi nos passions qui nous attirent. Et ce qui va nous freiner dans nos passions, c'est aussi de se dire, eh, mais il y a l'enfer en face. Il faut faire attention. Et c'est un moyen qui peut peut-être nous aider à nous protéger dans certaines situations. Donc ils connaissent la gravité du châtiment parce que Rarama, il y a l'idée de permanence, de dureté et de difficulté, mais c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Ça après un grand débat chez les savants, est-ce que l'enfer est éternel ou pas? Le paradis, il est, oui. L'enfer, ça a été un sujet de débat. La majorité considère qu'il l'est, notamment en se basant sur ce verset. Donc, Inna et d'autres, comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, ont un autre avis sur le sujet, mais en tout cas, il y a cette idée qui dure. Hein, nous, on vit peut-être, enfin, il y en a qui vivent même quelques jours dans ce monde-là et pas plus. Il y en a qui vivent 100 ans, mais voilà, la moyenne d'un être humain, c'est à peu près 70 ans. Qu'est-ce que c'est que par rapport à une éternité? C'est vrai que l'éternité, ça ne nous parle pas. Qu'est-ce que c'est que par rapport déjà à 1000 ans? Qu'est-ce que c'est que par rapport à 2000 ans? Qu'est-ce que c'est que par rapport à 10 000 ans? Qu'est-ce que c'est que par rapport à 100 000 ans? Qu'est-ce que c'est que par rapport à 1 million d'années? Ça y est, là, déjà, on n'arrive plus à compter. 70 ans, 1 million d'années. C'est comme si tu dis quelqu'un, il a 70 euros et l'autre, il a 1 million d'euros. De quoi on parle? Vous voyez ce que je veux dire? L'enjeu n'est pas le même. Donc, en euros, peut-être que ça peut peut-être plus nous parler. Ben, en durée de vie, 70 ans, ça peut paraître long, ça peut paraître. Mais remis en perspective par rapport à la gravité de l'enjeu, surtout pour l'éternité, ça aide à un moment donné à se remettre les yeux en face des trous, comme on dit. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Et au-delà de ça, c'est qu'ils sont conscients que c'est véritablement quel mauvais gîte et quel mauvais lieu de séjour. C'est-à-dire que on est beaucoup dans la recherche de tranquillité dans ce monde-là, et dans leur invocation, Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, c'est comme si eux-mêmes ils prenaient le contre-pied. On ne cherche pas la tranquillité parce qu'on sait que il faut qu'on agisse dans ce monde, il faut qu'on se mette en marche, il faut qu'on fasse des efforts, parce que sinon on risque d'arriver dans un lieu de repos et un lieu de sécurité qui va être tout sauf de la sécurité et tout sauf du repos. Donc il y a cette conscience du rapport à l'autre monde. Pour autant, comme je l'ai dit, il y a un vrai équilibre dans la fin d'Ibad al-Rahman parce que c'est une vraie éducation de vie. Donc ils vivent dans ce monde-là en étant soucieux de ce rapport à l'autre monde et ils en parlent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont ces moments d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala où ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver du châtiment de l'autre monde. Et l'invocation qui fait écho, c'est والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Bon, ce verset fait plus référence à la globalité, mais il y a un autre passage dans le passage d'avant, mais on va rester sur celui d'avant. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. Premier élément, ils disent: Ô notre Seigneur, donc ils insistent sur cette dépendance à Allah, offre-nous. C'est-à-dire qu'ils ont une relation de. C'est pas n'importe qui que tu vas demander un cadeau. Tu vois, déjà, il faut que tu aies une intimité, il faut que tu aies une familiarité avec la personne. Tu vois, c'est pas. Tu ne demandes pas un cadeau à n'importe qui. Tu sais que déjà, il a les moyens de le faire, et puis tu sais que tu peux te permettre de le faire, et tu sais que tu es suffisamment proche pour aller demander un cadeau. Tu vas pas. Ça pourrait être presque même impoli de demander un cadeau à quelqu'un. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il est le grand donateur, mais en plus, comme tu es dans sa proximité, tu te permets de demander à toi-même le cadeau parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce qu'il veut. Mais quand tu as cette proximité-là, ben, quelqu'un dont tu es proche et que tu sais, ben, tu vas te permettre de lui demander. Hablana, mais qu'est-ce qu'il demande? Min azwajina wa dhurriyyatina. Parmi nos épouses et nos enfants, alors azwaj en langue arabe est un terme qui. Et traditionnellement, aujourd'hui, ça n'est plus le cas dans l'arabe moderne, mais dans l'arabe ancien, était un terme qui n'est ni masculin ni féminin. En fait, il est masculin d'essence, on va dire, mais il n'y a pas son féminin. Dans le sens où azwaj, ça peut être pour le masculin comme pour le féminin. Certains ont considéré que ça restait le masculin, dans le sens où azwaj était au pluriel et que l'homme peut avoir plusieurs épouses, mais pas la femme. Mais de manière générale, en réalité, cette invocation est valable pour l'homme comme pour la femme. Il y a un souci de la famille. Il y a un souci des conjoints et des enfants, en réalité, à ce niveau-là. Et déjà, c'est-à-dire que pour s'ouvrir et se décentrer de son égoïsme, ben, faut déjà se préoccuper de ceux qu'il y a autour de nous. Hein, d'ailleurs, Ibrahim, on en avait parlé une fois, il me semble, c'est que quand il réussit ses épreuves, son premier souci, c'est pas lui-même, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je... Non, et ma descendance. Il est tourné tout de suite vers les autres. Et ça commence avec les plus proches et on élargit progressivement. Parce que parfois, quand on regarde trop loin, on veut soutenir des gens qui sont trop loin, c'est aussi une manière de nous déresponsabiliser. Alors que quand tu as le souci de ceux qui sont proches, certes, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité, comme on dit, tu as la main pour pouvoir agir. Tu as encore c'est dans ta proximité, c'est dans ton champ de responsabilité. Tu peux faire quelque chose. Donc cette invocation, elle est très connectée avec quelque chose de très pratique. Tu dois t'occuper de ta famille, tu dois faire des choses. Donc c'est une invocation qui est corrélée avec une vraie responsabilité au quotidien. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, c'est un terme qui est très difficile à traduire, traduit par la perle des yeux ou la joie des yeux. Mais en réalité, qurrata a'yun, c'est un terme, en arabe, c'est un point de fixation. Comme il disait le prophète, qurrata a'yuni fi salah. La perle de mes yeux, on va dire, est dans la prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, qurrata a'yunin, c'est que tu as un repère, tu as un point de fixation qui te permet de reprendre conscience de tout ce qu'il y a de beau, de tout ce qu'il y a de magnifique dans ton projet de vie. Ton projet de vie, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de retourner au paradis. Et ce point de fixation, il va t'aider à te dire, attention, non, ça, c'est pas important. Mes tentations, là, c'est pas important. Mes désirs de ce moment-là, c'est pas important. Les problèmes que je rencontre, c'est pas important. Les attaques que j'ai subies, c'est pas important, tout ça. Il y a quelque chose de magnifique, c'est que j'ai un vrai projet de vie, qui est au-delà de toutes ces considérations, c'est que je vais vers le paradis. Hein? C'est ça, c'est que dans les foyers, on a besoin de ce rappel-là. Et ce rappel-là, il faut faire attention. C'est-à-dire que cette joie et cette beauté, elle ne passe pas par que le fait que ton épouse ou ton époux, il va toujours te caresser dans le bon sens du poil, il va toujours sourire avec toi, il va toujours. Parce que là, il risque de te faire dévier de ton cap. Il va te rendre très égoïste. C'est-à-dire qu'il faut de ça, il faut de l'affection. Hein? On va dire, à la baynakum mawaddatan wa rahma, comme il dit le verset du Coran. Il n'a pas mis entre vous de l'amour. L'amour, ça monte, ça descend. Il a mis de l'affection et de la miséricorde. Ça, on est responsable de la donner. On est capable de la donner, même tu aimes ou tu n'aimes pas, tu peux donner de l'affection, c'est une responsabilité qui t'incombe. Donc, il a mis de l'affection et la miséricorde entre nous. Donc, cette affection, oui, elle est nécessaire. Mais cette affection et cette rahma, et d'ailleurs même la rahma, on dit qu'il y a la notion de puissance dans la rahma, c'est que parfois, il faut aussi corriger. La rahma dans la parfois, elle se traduit par des épreuves, par le fait qu'il nous corrige. Et dans nos couples et dans nos foyers, avec nos enfants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un dévie, il faut aussi à un moment donné cette fermeté de lui dire la vérité. Il faut cette fermeté de rappeler un cadre et de rappeler des limites. Et c'est en ça qu'on peut être des repères les uns pour les autres, avec de l'affection, avec de la miséricorde. Et cette miséricorde, elle inclut aussi le fait qu'il y a, à un moment donné, savoir mettre des limites et savoir pardonner. Quand la personne, elle fait l'effort de revenir, on est dans le pardon comme il l'est, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans les versets précédents. Les gens qui font des grands péchés, pourtant, il les a intégrés parmi Ibadur Rahman à la condition qu'ils font l'effort de revenir. Et qu'ils ont au moins juste le souci de faire l'effort de revenir. Donc, cette dua, elle est aussi assez intéressante parce qu'il dit, et fais de nous pour les muttaqin, pour les gens qui sont dans une démarche de conscience, d'alerte, de vigilance, qui visent donc finalement cet objectif, qui cherchent à aller vers la vérité. Imam. Imam, c'est être guide ou être devant ou être. On dit que l'imam dans la tradition musulmane, c'est celui qui absorbe la difficulté pour les fidèles, c'est celui qui gère la tension pour les fidèles, c'est celui qui organise hein, pour les autres, hein, qui a le souci en fait de coordonner pour les autres. Et donc l'idée, c'est pas de demander à devenir des imams dans des mosquées. Certains ont compris un peu cette signification-là de cette invocation. C'est plus que ça. C'est en fait en réalité être soucieux d'être dans l'aide de tous ceux qui veulent cheminer, de les accompagner, de les aider. Et ça, c'est assumer ses responsabilités. En réalité, on demande à Allah de nous aider à être plus responsables, pas être dans une posture de suivisme, de moi je suis pas capable, je suis pas compétent, être conscient qu'Allah t'a donné des forces. Et on demande à Allah de nous donner cette conscience qu'il nous a donné des qualités parce qu'il nous en a tous donné. On a nos péchés, certes, il faut en être conscient, il faut essayer de repentir, mais il nous a aussi donné des forces et des qualités. Et donc, on demande à Allah de nous permettre de les utiliser pour accompagner les gens, pas pour nous-mêmes déjà. Comme Ibrahim alayhi salam, comme le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, dans le souci des autres. Comment on peut aider et les autres, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les gens du pouvoir, ce n'est pas les gens qui ont l'argent, il faut aller les convaincre parce qu'on va renforcer la communauté. Non, comme dans l'histoire de Abbas Awatawel, le prophète il va parler aux notables de Quraysh en pensant que si il arrive à les convaincre, Allah subhanahu wa ta'ala lui descend à Abbas Awatawel, l'aveugle, qui est peut-être un être faible, mais parce qu'il a la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il est plus important. Celui qui veut la vérité, lui, il est le plus important. Cherchons les gens qui veulent la vérité, qui veulent cheminer, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas. Parce que dans la notion de conscience, hein, par exemple dans Sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala évoque le statut de Muttaqin, même par rapport à des gens d'Ahlul Kitab. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être dans cette démarche-là de recherche de vérité, et ils n'ont pas encore peut-être trouvé Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont ce souci du vrai. Eh bien, il faut accompagner, il faut essayer de les aider à trouver ce qui est vrai, et leur choix, il leur appartient après derrière. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut se mettre au service? Parce que l'imam, finalement, il est plus dans une démarche d'être au service hein, que d'avoir le pouvoir ou l'autorité, comme parfois on peut le comprendre. C'est plus celui qui va justement être responsable du groupe et des autres pour pouvoir essayer de faire en sorte d'aider à cheminer. Wallah, en tout cas, je pense que c'est des vraies clés d'enseignement par rapport à la manière dont on vit aussi, par exemple, l'islamophobie dans nos pays, etc. On est beaucoup dans une posture défensive de oh, c'est pas normal, ils nous ont attaqué ceci, etc. Il faut saisir de ces choses-là pour, au contraire, ramener l'incohérence dans ces sociétés, dans les modes de vie, dans la manière dont on vit, ramener ces éléments-là, plus plutôt réorienter le débat vers ce qui doit faire avancer la société, ce qui doit corriger les déviances de la société, en commençant par déjà nous-mêmes à notre échelle, à l'échelle des proches, hein, et à l'échelle de tous ceux sur qui on peut intervenir. Parce que parfois on voit trop large. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de voir large, il faut avoir une vision globale, c'est important. Mais il faut que cette vision globale, elle nous aide à agir concrètement là où on peut agir. Et chacun, il a un champ d'action qui lui est propre. Abdelrahman, je te laisse réagir, Inch'Allah, par rapport à.
Merci Fatallah. J'ai bien aimé la manière dont tu as déroulé ces versets, expliqué un peu leur placement dans cette sourate. Sur le premier verset déjà, sur le où on se réfugie contre Jahannam, contre l'enfer, on voit que par rapport à Ibadur Rahman, donc les serviteurs du miséricordieux, ils ont constamment en fait cet esprit de vouloir se protéger contre ce châtiment-là. Les questions que ça amène, c'est est-ce que en tant que croyant, en tant que musulman, est-ce que c'est quelque chose que nous on fait? Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement? Pas forcément en continu, mais au moins régulièrement, qui revient vers nous, dans lequel on essaie de se réfugier avec le cœur, pas juste avec la langue. Après, j'aurais peut-être plus de choses à dire sur le deuxième verset, enfin, plus de choses qui m'ont inspiré dans le deuxième verset, dans ce que tu as dit. Je pense que je comprenais mal ce doa avant, par rapport à ce que tu viens de dire et par rapport à ma compréhension un peu plus récente. Donc, je vais relire la traduction de Hamidullah. Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. La manière dont je le comprends, c'est pas que je le comprenais, mais dont je le voyais peut-être plus, c'était juste une joie générale, en fait, d'avoir des épouses et des enfants, enfin un époux, une épouse, et des enfants qui nous rendent heureux. Et la manière dont je l'ai expliqué, on se rend compte que c'est pas vraiment le terme heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que dans notre éducation, je pense que beaucoup se retrouveront dans ça. Il y a beaucoup de choses que nos parents ou que des parents cherchent, ou que nous, en tant que parents, cherchons pour nos enfants, qui parfois nous rendent très heureux, par exemple, qui réussissent à l'école, voilà, qui se marient, ou qu'il y a des choses qui se passent, et qui nous rendent extrêmement heureux. Et peut-être qu'on va essayer de lier ce genre d'événements à ces doigts-là, en délaissant, comme tu as dit, le côté spirituel. Moi, ce que je comprends de ce doigt, hein, bien sûr, on essaie de trouver le bonheur et la joie dans nos relations proches, notamment nos épouses et nos enfants. Mais ce que je retiens aussi de ce que tu as expliqué, c'est que le plus grand bonheur qui englobe tout ça et qui est au-dessus de tout, c'est vraiment de voir ses conjoints, enfin son conjoint et ses enfants sur le droit chemin, croyants, qui poursuivent un cheminement spirituel croissant, enfin qui se rapproche de plus en plus de Dieu. C'est à travers ça que vraiment on trouve le plus gros bonheur. De ce que je comprends de ce verset-là. Et peut-être que ce verset aussi reflète aussi l'état de notre cœur, parce que peut-être qu'on peut se dire, est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureux quand je vois ma femme, quand je vois mon. Pour une femme, quand je vois mon mari, quand je vois mes enfants, est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureux, ou est-ce que c'est juste qu'ils réussissent à l'école et qu'ils fassent certaines telle ou telle chose qui, oui, ça rend heureux, mais est-ce que, par exemple, le fait que mon enfant ait un cheminement spirituel positif, est-ce que ça me rend vraiment heureux? On a tous entendu des histoires où il y a, par exemple, des sœurs qui commencent à porter le voile, par exemple, et ça commence à créer des tensions. Dans la famille, alors que c'est des familles musulmanes, on peut avoir d'autres situations, des choses qui se passent, par exemple, qui mettent en avant peut-être l'apprentissage de la religion, du Coran, etc., et ça va créer des tensions peut-être dans la famille. Alors que là, à travers ce verset, on voit que normalement, non, c'est ça qui est censé apporter le plus de joie en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux. Et je te laisserai réagir après, mais il y a aussi la dernière partie, donc, et faites de nous un guide pour les pieux. C'est vrai qu'on a souvent cette idée que être leader, c'est pas une position qu'il faut demander, en fait. En islam, on ne demande pas être leader, c'est pas bien, tout ça. Et là, on voit qu'on fait un doa pour être un leader pour les pieux, un guide pour les pieux. Et en fait, la manière dont je comprends, c'est que on cherche à être un exemple pour les pieux. On ne cherche pas forcément à atteindre une position, avoir telle position, telle place, être directeur ou être imam, quoi que ce soit. Mais dans notre entourage, on cherche à être un exemple, on cherche à être une source d'inspiration pour cet entourage-là. Et ça devrait être quelque chose que tout le monde devrait aspirer à être une source d'inspiration, on va dire, pour son entourage en tant que personne pieuse soi-même. Après, j'avais une question qui me venait. Pourquoi est-ce que Dieu il lie la famille, en fait, la relation avec sa famille proche, avec le fait d'être un leader? Donc, tu l'as un peu évoqué. Il y a deux remarques qui me viennent en tête. C'est à quoi bon être un bon leader de manière, enfin, pour tout le monde? Parfois, on essaie d'être un leader pour le reste de la société, mais on ne l'est pas pour notre famille. On n'est pas un bon exemple, on n'est pas une source d'inspiration pour notre famille, parce qu'on ne la priorise pas suffisamment. Et la deuxième chose, c'est que si on cherche à être un imam pour le reste de la société ou pour sa communauté, le fait d'avoir une famille qui soit la fraîcheur de nos yeux, qui soit la joie de nos yeux, c'est un support en tant que guide pour les pieux. Parce que parfois, on peut vivre des difficultés, ça peut être difficile. On part un peu au combat, un petit peu. Des fois, c'est fatigant. Et le fait de revenir et de retrouver un peu cette joie dans son entourage, c'est aussi une sorte de support. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le lien entre les deux. Voilà, c'était un peu mes commentaires. Ce que j'ai retenu de ces versets-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fethallah?
Sur le passage concernant la notion de responsabilité, je pense que ça, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, la tradition musulmane est une culture du devoir plus qu'une culture des droits. Les droits, en fait, sont l'émanation des devoirs. On ne réfléchit pas tellement en termes de droits à la base, en fait. On réfléchit plus en termes de nos responsabilités parce qu'on va rendre des comptes à Dieu de toute façon. Donc, ce qui doit nous préoccuper, c'est quelles sont nos responsabilités, quels sont nos devoirs. Et en conséquence, ben, ça induit des droits. Ça induit des droits pour nous-mêmes, ça induit des droits pour les autres, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est véritablement cette approche des devoirs. Et c'est pareil, en réalité, finalement, même dans la compréhension, alors on ne va pas rentrer dans tous les sujets que ça implique, parce que c'est un sujet qui est vaste, mais derrière ça, le principe de ne pas demander l'autorité est un vrai grand principe en islam. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas l'autorité, on ne cherche pas le commandement ou quoi que ce soit. Ça, c'est. Parce que le prophète il nous enseigne, c'est lui qui demande l'autorité, il sera laissé à lui-même, alors que celui à qui elle est confiée et qui l'accepte pour Dieu, ben c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sera dans son soutien et qui va l'accompagner dans cette démarche. Donc il y a une vraie différence entre les deux. Il y a le fait que le prophète m'avait dit clairement, Abdullah ibn Samura ne demande pas l'autorité aussi ou le commandement. Et on a l'exemple de Youssouf alayhi salam, ou d'autres exemples même qui peuvent exister, mais l'exemple de Youssouf est très parlant. Donc je vais m'arrêter juste sur celui-là 2 petites secondes. Et lui, ben voilà, quand il sort de prison, il demande carrément le ministère de l'économie, si je peux traduire ça comme ça, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui. Et donc on se dit, ben, donc c'est possible de demander le commandement, vu que lui, il l'a demandé dans ce cas-là. En réalité, en fait, il y a une nuance qui est importante et qui va nous ramener au point de départ sur la notion de responsabilité. Youssouf alayhi salam, quand il sort de prison, il a un peu perdu son enthousiasme, en fait. C'est-à-dire que même, on le voit dans les versets, quand il rentre en prison, il est très enthousiaste. La prison n'est pas un problème pour lui, c'est même lui qui l'a demandé. Il sait pourquoi il est là, c'était pour se préserver. Il comprend totalement le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cohérence avec ses invocations. Il est dans la da'wa, il prêche, etc. Quand il sort de prison, il a un peu perdu son enthousiasme. Le roi lui demande d'interpréter son rêve, il l'interprète. Mais il y a moins d'enthousiasme dans la manière dont il énonce les choses. Parce que la prison l'a quand même malgré tout affecté. L'épreuve qui pourtant lui-même avait demandé, elle était quand même lourde à supporter. C'était pas aussi simple que ça en fait. Mais ça reste un prophète, ça reste quelqu'un. Et c'est pour ça que même la définition de la spiritualité, on est beaucoup dans une définition de la spiritualité de l'ordre du bien-être. On veut ressentir des choses. Alors que le bien-être, c'est un état que Allah subhanahu wa ta'ala offre à certains moments. C'est une épreuve. Qu'est-ce que tu veux en faire? Et le fait de ne pas être bien à certains moments, bah, c'est aussi une épreuve. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ça ne veut pas dire que tu es spirituel parce que tu ressens des choses. Tu es peut-être totalement dans les garments et des gens, ils ressentent des choses et ils sont complètement à l'ouest. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça, ce n'est pas une clé, ce n'est pas un élément d'évaluation. Et donc, Youssouf est quelqu'un de très spirituel au sens premier du terme. Et donc, malgré le fait qu'il ait moins d'enthousiasme, il y a une situation qui se présente. Il va y avoir 7 années de famine. Qui vont arriver après 7 années de richesse. Qui accepterait de prendre la responsabilité à ce moment-là? Si ce n'est quelqu'un qui dit, c'est ma responsabilité devant Dieu, personne ne va s'avancer sur ça, ou celui qui va s'avancer, voilà quoi, il faut à un moment donné assumer. On est dans une situation difficile, et là il y a des moments dans les situations difficiles justement, et en général on va se rendre compte que des gens ils veulent bien s'avancer quand il y a un boulevard ou quand c'est dans leur intérêt ou quoi que ce soit, mais dès que ça devient très compliqué ou que ça devient. Là, on a tendance un peu à fuir. Et la vraie démarche de responsabilité, elle est là. C'est qu'à un moment donné, il y a des moments, il faut s'avancer. Il y a un conflit, il y a une difficulté, il y a la lourdeur d'une situation, il y a un problème à gérer. Et c'est là où il faut être responsable. Ce n'est pas le commandement pour le commandement, c'est qu'il faut dire, non, il faut faire. Et là, il faut. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un certain nombre de facultés. Et c'est ça, être spirituel en islam. Ce n'est pas uniquement faire du dhikr le soir. Ce dhikr le soir, il sert justement à se traduire dans des situations d'injustice, dans des situations de conflit, dans des situations où il y a le mal qui se répand. Et bien, on va essayer de faire. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, on n'est pas des Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, c'est un prophète, il a des facultés particulières, mais ça reste nos modèles. Et justement, c'est pour ça que. Donc, la notion d'imam dans cette démarche-là, c'est ça, c'est qu'il y a des moments, et on vit dans des époques où il y a plein de choses qui partent de travers, il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes dans nos modes de vie. Et à un moment donné, il faut avoir la responsabilité de s'avancer et de dire. Quand on voit, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais. Enfin, qui n'a pas rien à voir justement, mais. Quand on voit dans les réseaux sociaux, beaucoup dans la communauté, on va rentrer sur les réseaux sociaux et il y a des discours un peu bien-pensants. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a plus de nuance avec qui que ce soit. Le bien, tout est bien. C'est quoi qui est mal? Ce qui est, tu vois, il y a plus, on n'arrive plus à distinguer en fait finalement le vrai bien, le vrai mal, etc. On a tellement dilué tout que ben, on va dire même Aïssa la Trinité, c'est bien, c'est pas grave, c'est bien. On a quand même des nuances et des spécificités. Tu vois un tarot, un dirigeant qui a. Non, il y a quand même du bien. En fait, il y a plus de nuances et on sait plus distinguer les choses. La responsabilité, à un moment donné, c'est d'amener cette nuance aussi. C'est quelqu'un qui. Ok, je suis là, je suis présent, mais il y a des choses à dire. Ça va pas plaire à tout le monde, mais il faut à un moment donné avoir cette responsabilité et cette audace. C'est un exemple que je donne, c'est quelque chose qui m'a interpellé il y a quelques jours. Mais en soi, en fait, il faut. Je sais pas, demain, il y a vos enfants, ils ont un conflit à l'école, il y a une tension, il y a quelque chose d'injuste qui se passe ou quoi que ce soit. Parfois, certains, ils vont rester un peu en retrait, ils vont pas trop vouloir s'avancer. Être responsable, c'est ça, c'est se mettre devant. Il y a des gens qui ont une démarche de conscience. Comment on fait pour les aider à s'organiser? Comment on les fait pour dire non, on pense qu'il y a une autre chose à faire, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, etc. Et qu'on assume. C'est ça, être. En vérité, nous, on veut être le chef, mais c'est pas le chef. Ça, c'est pas important. C'est justement là, il y a quelque chose qui va pas, ben, il faut assumer. Il faut essayer de tirer les gens dans une démarche qui va vers ce qui est sain, ce qui est bon, ce qui est juste. Hein, même si ça va peut-être paraître paradoxal, ben, ce qui est sain et bon et juste est parfois très évident en vérité. Le problème, c'est que tellement on dilue tout, qu'on est dans la société où on relativise tout, que finalement, on n'arrive même plus à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que dans la nature première de l'être humain, on sait distinguer à la base le bien et le mal. Et qu'il faut savoir revenir, certes, à cette simplicité-là. Mais la simplicité, elle n'exclut pas la nuance, au contraire. Elle la préserve, elle la protège. On a même.
Effectivement, je pense que c'est une nuance, comme tu dis, très importante à apporter. J'avais une dernière question, peut-être.
Ouais.
Peut-être un truc qu'on n'a pas traité, c'est que chez les musulmans, même de manière générale, le couple, il y a beaucoup de familles ou beaucoup de familles où il y a beaucoup de tensions, hein, il y a beaucoup de problèmes entre les parents et les enfants, entre les couples, etc. Et parfois, des gens qui lisent ce verset, ils espéraient même pas avoir juste. Un dixième de ça, tu vois, vers les situations très chaotiques dans les familles, très misérables. Comment est-ce que ce verset, il peut aider? Comment il faut aborder ce verset pour nous aider à améliorer nos relations dans nos couples et chez nos enfants?
C'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure. Je me dis que parfois, on a une conception du couple et de la famille qui est beaucoup dépendante des séries télé et des médias modernes qui nous ont vendu un idéal, même la notion de l'amour aimé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ce qu'il aime lui, encore plus de ce que nous, on est censé aimer, en fait. Bien qu'on puisse aimer, c'est dans l'ordre naturel des choses. L'être humain, il peut aimer certaines choses. Mais la problématique de ce qui fonde le couple, c'est que le couple est le moyen de créer des liens. Enfin, la famille est une passerelle en islam. C'est pour ça que la conception de la famille, elle est complètement différente. C'est pas. Même si le prophète me dit, si deux personnes s'aiment, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, ils s'aiment, c'est voilà, il y a eu quelque chose avant qui a fait que. Il dit, mariez-les, laissez pas la situation comme ça. L'islam est très pragmatique de ce point de vue-là. C'est pas. On n'est pas déconnecté du monde réel, on va dire. Mais. L'objectif premier du mariage, c'est pas ça. L'objectif premier du mariage, c'est de créer des passerelles, de créer des liens. Les gens, ils se marient, ils se coupent de tout le monde. Donc déjà, forcément, tu peux pas être dans un lien sain à Dieu si tu te coupes. Forcément, il va y avoir des problèmes parce que tu coupes les passerelles qui te relient à Allah subhanahu wa ta'ala. Se relier aux autres, c'est un moyen de se relier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, ça pose problème. Donc la compréhension du foyer, elle est problématique à ce niveau-là. Donc le foyer, il faudrait déjà qu'il soit un lieu d'ouverture vers les autres, déjà la famille, les parents, les oncles, les tantes, les amis, les membres de l'association, les collègues, peu importe, qu'on recrée du lien sans être naïf, il faut sa vie privée, il faut son intimité, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, ce que j'évoquais par rapport à la notion de l'amour aussi, c'est que c'est pas le socle. Le socle, c'est l'affection et la rahma. C'est différent parce que ça, tu es dans une démarche où tu peux être responsable. Tu aimes pas. Il y a des moments où tu vas aimer, des moments où tu. L'amour, le problème, c'est quoi? C'est quand ça va pas, ça peut se transformer en haine. Le comme on dit, le cœur, il se renverse. C'est son nom en arabe, c'est ça, c'est qu'il bascule, il vacille d'un état à un autre. Et tu vas dépendre de ça dans la construction de ton couple. Non. Le couple, c'est ça va pas, etc. Ça, c'est la question de ce qui est juste, ce qui est pas juste, de où est-ce qu'on met les limites, où est-ce qu'on met les seuils. Il faut gérer et structurer la cellule familiale. Mais ce qui permet de le faire, c'est d'amener de l'affection. Ça va pas. Tu es capable de donner de l'affection, tu es capable d'offrir des fleurs à ta femme, tu es capable de préparer un bon repas, tu es capable de lui faire un sourire, tu es capable de faire un câlin, tu es capable de sourire comme professeur, quand son épouse elle était jalouse, elle a fait tomber le plat, professeur, il en sourit. Il dit, elle est jalouse en plaisantant avec elle, etc. et tout. Il a détendu l'atmosphère, il met de l'affection. Le professeur, quand il lisait son Coran, il s'allongeait sur les genoux d'Aïcha, il mettait sa tête dans son giron. Et il y avait des moments, ces petites choses-là, qui faisaient que, voilà, il y a quelque chose qui détend l'atmosphère. Pourtant, il y avait de la jalousie, il y avait des conflits, il avait plusieurs épouses, donc c'est dire que les tensions qu'il y avait, il y avait même eu des moments de séparation, d'accord? Mais c'est ça qui va permettre de renouer. Et puis surtout, dans la notion de Qurratu Ayn, ce que je disais, c'est que pour que ce soit un repère, la beauté du repère, c'est que, enfin, c'est comme si un repère, c'est que quand tu es perdu, c'est comme un phare. Un bateau qui est en mer, il risque de se prendre la côte, ben le phare, il l'aiguille, il lui permet de reprendre le bon chemin. Et pour ça, il faut que le foyer, la cellule familiale, il y ait du dialogue, il y ait de l'échange. Aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones, on est tous sur nos machins, on n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à discuter. Quel est le repère? Pour ça, qu'est-ce que tu t'en fiches en fait de ta famille? Toi, tu rentres, c'est un lieu, tu manges, tu repars. C'est un truc que t'es. Les relations, elles sont au début, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de machin, etc. Les gens, ils sont amoureux, et puis après, Koulouahed, il faut un minimum de dialogue. Mais chacun, il a sa sphère privée, encore une fois. Ça, c'est normal. Même dans le couple, c'est pas une fusion. Chacun, il a ses propres choix. La femme comme l'homme. Mais il faut aussi, à un moment donné, faire en sorte que il y ait un minimum de dialogue, un minimum d'échange pour qu'on puisse se conseiller dans le bien, dans le mal. Et tu verras que les tempéraments, parfois, l'autre, il a un tempérament complètement différent du tien. C'est un moyen de t'éclairer. Toi, tu es en train de t'enfoncer dans un mode de vie avec tes repères à toi, avec ta manière de fonctionner. Parfois, l'autre, il est différent. Il a une manière de gérer différent les situations. Ça vient de bousculer. Bah, ça éclaire la situation différemment, en fait. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est ce qui va te permettre de te mettre en perspective, de prendre un pas de recul et de relire la situation différemment et de te dire, ah, finalement, par rapport au cap de départ, je suis peut-être en train de faire fausse route. Ou au contraire, par rapport au cap de départ, alhamdoulilah, je tiens un bon fil. Il faut que. Et ça passe par là. Mais ça passe aussi par l'affection, ça passe aussi par tout ça. Je pense qu'on a une compréhension de la famille, un peu d'un modèle de paradis sur terre, d'un couple avec deux enfants, et qui deviennent un médecin, un autre ingénieur, et voilà, et dans notre propriété, qui vont hériter. Et voilà, on a réussi notre vie. C'est pas ça. La famille en islam, c'est pas ça. C'est la passerelle. Ça crée des liens vers les autres, ça permet de faire en sorte qu'on diffuse la justice, ça permet de faire en sorte qu'on diffuse le message, ça permet de faire en sorte qu'on crée des liens avec les autres, qu'on fasse en sorte de rappeler le monde invisible, etc., qu'on aide à corriger les modes de vie, à assainir les modes de vie. La cellule familiale, elle sert à ça. Parce que c'est un point d'ancrage qui permet justement de s'attacher et de se relier aux autres.
Je te remercie. Alhamdoulilah. J'espère que ça pourra nous aider, nous et les auditeurs, à mieux comprendre ce verset, Inch'Allah, et mieux l'appliquer. Là, je vais te laisser conclure.
Abdelrahman, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer notre jeûne déjà et nos efforts pendant ce mois et de nous permettre de multiplier les efforts pendant ce mois béni. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la proximité du Coran pendant ce mois béni, de nous permettre de suivre les traces du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à nous ramener à son bassin, de nous réunir avec nos proches et nos familles et tous ceux qu'on aime auprès de son bassin, dans les plus hauts degrés du paradis, nous accorder le dévoilement. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos fautes, nos péchés et nos manquements, de nous permettre d'assumer nos responsabilités et nos devoirs. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire entrer au paradis sans décompte et de nous faciliter en ce monde et dans l'autre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser sur sa voie, nous utiliser pour son message, malgré nos faiblesses, et de nous renforcer. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'agrément. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك، وأستغفرك وأتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
Bien, on vous dit la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le troisième épisode. Salam alaikum.
عليكم السلام.